un bref rappel de ce que nous avons fait ensemble. Nous avons d'abord lu l'Écriture en essayant de rendre sa dynamique. Puis les pères de l'Église, progressivement, petit à petit. Et nous avons terminé le premier millénaire par Julien de Tolède, qui ne fait pas partie, qui ne se considère pas comme père de l'Église, et qui a su une transition. Et puis, nous avons vu un petit peu Bernard de Clairvaux, Bonaventure, Thomas d'Aquin, et le développement du magistère avec la constitution de Benoît XII, souvenez-vous, Benedictus Deus, très importante. Et donc maintenant, nous entamons une nouvelle période, si on peut dire, une période qu'on pourrait dire depuis Vatican II, en fait un petit peu avant quand même. Cette nouvelle période a été préparée par des changements culturels importants de notre société, en tout cas ici en Occident, au niveau théologique préparé par plusieurs choses, un renouveau exégétique, des questions nouvelles qui sont apparues, comment est-ce qu'on interprète l'Écriture, avec la méthode historique critique qui est arrivée. Ça a suscité énormément de questions et ça a eu un impact énorme en ce qui concerne notre cours pour savoir comment est-ce qu'on interprète l'Écriture. Un renouveau patristique, on aurait découvert la manière dont les pères de l'Église lisaient l'Écriture. Un renouveau liturgique aussi. À cela, il fallait ajouter une prise de conscience que le monde n'est pas seulement chrétien et qu'il y a un besoin de mission. Et au niveau dogmatique, il y a eu un approfondissement aussi, des thomistes. Donc tout ça ensemble fait que beaucoup de choses changent. J'ai parlé de l'exégèse, de l'invasion, si on peut dire, de la méthode scientifique dans l'exégèse avec la méthode historiocritique. Ça veut dire que notre société est traversée par la question de la science. Alors, on pourrait évoquer d'autres mutations culturelles qui sont à l'homme. Il y a donc la science, il y a les grandes pensées qui font encore notre quotidien. Nietzsche, Marx, Feuerbach et Hegel, bien sûr, tout cela sont des pensées qui ont changé profondément notre culture. Et donc il y a un besoin de reprendre tout ce qui a été dit de manière nouvelle. C'est une prise de conscience importante qu'il y a un gap culturel et que la manière dont Bonaventure et Thomas d'Aquin parlent est intéressante. Mais on voit bien que nous, ça ne nous va plus du tout. Il faut repenser et regarder les choses autrement. Alors, vous avez peut-être été un peu choqué justement quand j'essayais d'exposer ça à Bonaventure et Saint Thomas. On voit bien quelque chose de pertinent, en même temps, il y a des choses qui nous surprennent, une manière de penser qui n'est plus la nôtre. Donc il faut reprendre vraiment les choses. Alors dans le programme, j'avais annoncé que j'allais parler du magistère, et puis de la réflexion théologique. Eh bien je change. Je change d'abord parce que il me semble que là, si le magistère suit la réflexion théologique généralement, en tout cas il est préparé par la réflexion théologique, et chronologiquement, cette réflexion théologique vient avant. Donc, j'aborde plutôt cela. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est voir cette réflexion. Ensuite, nous prendrons le magistère, qui s'est développé quand même de manière assez différente par rapport aux autres écrits magistériaux. C'est intéressant de noter aussi. Et puis, comme conclusion, je n'avais pas dit ce que c'était, eh bien, ce sera, on va plonger dans la liturgie. Liturgie des funérailles, mais pas seulement, liturgie tout court. La liturgie elle-même est aussi un lieu théologique. Et je vais prendre la liturgie d'aujourd'hui, celle que nous connaissons en fait. Parce que c'est ce que le Seigneur nous donne maintenant, et la liturgie est une clé d'interprétation pour la suite. Donc on verra comment elle reprend en fait tout. Et en même temps nous ouvre sur la présence du mystère à ce moment-là. Alors, pour la réflexion théologique, je vais me fonder surtout sur trois théologiens. Hein. Karl Rahner, vous avez les dates. Hans Urs von Balthasar, le premier est allemand, le second est suisse, allemand, et le dernier c'est Josef Ratzinger.
Bavarois,
tout à fait. qui a grandi juste à côté de Altötting, je ne sais pas si vous connaissez, Altötting, c'est un lieu de pèlerinage marial en Bavière. Il y a 1 million de personnes qui vont là chaque année. Voilà. Alors, ces théologiens ont tellement réfléchi à cela qu'il vaudrait la peine de prendre chacun des thèmes de l'eschatologie et de les travailler. Ça me demanderait 5 ou 6 cours de plus. Et comme Pierre Gervais l'a fait dans son syllabus, je vous renvoie à ce syllabus. J'espère un jour pouvoir le faire moi-même, mais bon, voilà. J'ai fait seulement quelques parties il y a 3 ans. Donc pour ce qui concerne la pensée de ces 3 auteurs sur la mort, le jugement, l'enfer, le purgatoire, le ciel et l'état intermédiaire, vous pouvez aller voir le syllabus de Pierre Gervais qui est très bien fait. Ici, comme vous l'avez lu certainement, je vais m'arrêter sur quelques considérations générales sur la manière de penser l'eschatologie. Vous verrez que ça a une importance assez grande pour comprendre et pour assumer justement ce que nous avons vu. Karl Rahner tout d'abord, très grand théologien, qui a bien compris les enjeux et qui est extrêmement conscient du gap culturel, de l'écart culturel entre notre époque et celle qui nous précède. Il a publié un article en 1960 qui réfléchit à l'herméneutique des affirmations eschatologiques. Comment est-ce qu'on pense cela, tout simplement? Alors il donne 7 thèses qui lui permettent de donner des principes herméneutiques. Alors, l'herméneutique, si vous ne savez pas, c'est la science de l'interprétation. Comment est-ce que j'interprète un texte? Et Rahner dit, il y a bien sûr des principes d'interprétation généraux, une herméneutique générale, valable pour toute la théologie. Mais en matière eschatologique, cette herméneutique générale ne suffit pas. Pourquoi? Et tout simplement parce que ce n'est pas du même domaine de la réalité que les autres affirmations théologiques. On parle d'une réalité future. Et Rahner regrette en fait que cette réflexion ait été négligée. Il pense qu'il ne suffit pas de voir comment les affirmations du traité de fin dernière se concilient avec les points de vue du monde d'aujourd'hui. En fait, il y a une réflexion fondamentale qui est nécessaire, et pour tirer des principes herméneutiques, eh bien, il faut les tirer de l'écriture elle-même. Il faut les recevoir de la dynamique de l'écriture. Ça, on l'a bien dit. Et donc, il s'agit de voir comment l'écriture procède. Alors, Rahner ne fait pas d'exégèse, même si je pense qu'il en serait capable, mais il le prend tout de suite à un niveau plus profond. Alors, dans sa première thèse, Rahner se situe par rapport à un courant théologique selon lequel il faudrait démythiser les affirmations eschatologiques de l'écriture. Toutes les affirmations qu'on trouve, par exemple les récits apocalyptiques et compagnie, ça, ce sont des mythes. Et selon cette pensée, ce courant théologique, il n'y a pas que les récits apocalyptiques ou eschatologiques qui sont des mythes, il y en a plein d'autres. Hein? Et donc, il faut vraiment élaguer tout ça pour revenir à la véritable substance de l'Évangile. L'allusion, évidemment, qui est là derrière, c'est Bultmann. Si vous avez entendu parler, c'est un peu cela. Bultmann veut dégager tous les mythes. Et ils se disent ce qui est important, c'est comment ça me touche moi maintenant. Et donc, il dit, Gutmann, enfin, Rahner dit à ce propos, penser que les affirmations eschatologiques ne disent rien d'autre que ce qui se passe actuellement, maintenant, dans le présent de chacun, cela c'est inacceptable. Donc, vouloir réduire tout ce qui concerne l'avenir à ce qui se passe dans le présent, ça ne marche pas. Au contraire, dit-il, l'eschatologie concerne réellement l'avenir. Et il va plus loin, l'écriture elle-même exclut incontestablement une telle déseschatologisation. On comprend bien le mot. Ça, c'est la première thèse. Il dit, on ne peut pas non plus affirmer a priori que Dieu ne peut pas communiquer à l'homme ce qui concerne le futur. C'est contradictoire. Pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas dire le futur à l'homme? Parce que si Dieu ne peut pas faire cela, ça revient à faire en sorte que l'homme impose ses limites à Dieu. Et donc c'est de faire de la faiblesse de l'homme un obstacle à la puissance de Dieu. Et donc ce serait rétrécir la parole de Dieu et ce serait laisser l'homme déterminer ce que Dieu peut révéler. Donc il faut vraiment penser pour Rahner une ouverture maximale. Et lorsqu'il dit cela, il ne faut pas le comprendre comme si cette ouverture maximale, le fait de ne pas vouloir imposer des limites à Dieu, comme si cela s'opposerait aux conditions de compréhension de l'homme. Nous, on renvoie un peu cela dos à dos, et Rahner dit non. Non, non. On ne peut pas opposer la souveraine liberté de la parole de Dieu et l'état de créature de l'homme, c'est-à-dire son aspect limité. Parler d'aspect limité de l'homme, c'est parler donc de cette détermination, donc c'est les métaphysiques. L'anthropologie qui applique une métaphysique, et cette métaphysique est nécessaire à la théologie. Mais si on rejette donc ces principes métaphysiques, Rahner explique qu'en fait, au lieu d'arriver à quelque chose de plus pur, parce qu'on a rejeté les principes métaphysiques, on va y substituer une autre compréhension qui sera la nôtre, dont on sera d'ailleurs moins conscient. C'est ce qu'on voit dans quelques livres d'exégèse historique ou critique, où après toute l'épuration, la démythologisation qui arrive, en fait, l'auteur arrive à montrer ce qu'il voulait, ce qu'il pensait. Donc, en réalité, le salut qui vient, dit Rahner, est aussi celui qui est déjà donné. Et c'est là tout un point très important. Ce qui vient est ce qui est déjà donné. Il est le salut déjà actuel. Ce qui concerne le futur, dit autrement, est déjà présent maintenant. Et donc, le danger, la chose à éviter, c'est une réduction du futur au présent. Mais aussi l'exclusion absolue de la présence du futur aujourd'hui. Comme si dans ce présent, il n'y avait rien à voir avec le futur qui vient. Vous voyez, deux écueils à éviter. Donc d'un côté, qu'est-ce qui se passe? Le présent, pardon, toutes les affirmations eschatologiques sont réduites à n'être qu'une expression du présent. De l'autre, le présent est sans signification pour le futur. Il ne dit rien du tout de l'avenir, qui du coup est sans rapport avec l'aujourd'hui. C'est comme si c'était séparé. Et du coup, en quoi est-ce que ça me concerne? Donc, il s'agit de vraiment tenir une ligne de crête qui garde fermement ensemble les deux vérités, le salut comme déjà accompli, donc actuel, et comme inaccompli, encore à venir. Je le redis encore autrement, l'eschatologie, le futur, doit être pensée, et ça c'est très important pour Rahner, en termes d'achèvement. De la grâce déjà présente dans l'aujourd'hui et donc en termes d'accomplissement de ce qui est vécu maintenant dans la foi en Jésus. Deux autres affirmations liées aux précédentes doivent être aussi tenues ensemble. La première, c'est que ce qui concerne l'avenir possède un caractère caché. S'il y a la foi et l'espérance, mais c'est qu'il y a quelque chose de caché. Sinon, la foi et l'espérance disparaissent. Sans ce caractère caché, eh bien, la foi et l'espérance ne seraient pas elles-mêmes. Alors, ce caractère caché vaut pour l'avenir, évidemment. Il m'est caché. Mais, et là je trouve que Rahner est assez subtil, il vaut également pour le présent. Le caché n'est pas seulement renvoyé au futur, il est déjà maintenant. Ce qui vient, en fait, est déjà là, de manière cachée, dans notre aujourd'hui. Et donc, dans l'eschatologie, il y a une part de mystère, un mystère qui est à la fois déjà là et pourtant encore à venir. Ce mystère, ça c'est un principe pour Rahner, est inadmissible à l'eschatologie. Dès qu'on veut le supprimer, inadmissible, on ne peut pas l'omettre. Dès qu'on le voudrait, eh bien on va manquer la chose. La révélation est ce mystère déjà présent, qui est dévoilé, est caché d'une part et absent, encore caché aussi, qui tend vers son achèvement. Ça c'est l'autre côté. Ça c'est la première affirmation. La deuxième affirmation est liée à une réflexion sur le temps. Enfin, on était déjà bien, mais là il approfondit la chose. L'homme, dit-il, est un être historique. On est situé dans l'histoire. L'histoire, ce n'est pas seulement des faits, c'est aussi l'assomption de ces faits dans le langage. L'histoire, ça se raconte. Et donc, l'homme qui se situe dans le temps, lorsqu'il se dit, il comprend toujours le moment présent à partir d'une mémoire du passé et d'un avenir qu'il anticipe. Hein? Si vous êtes venu ici au cours, c'est que vous avez anticipé ce que vous allez peut-être pouvoir entendre. Et vous dites, je vais pouvoir avoir quelque chose, ou il y a quelque chose qui m'intéresse, et pour ça, je viens. Donc, le présent est situé entre ce qui est déjà accompli, et ce qui est encore à l'état de promesse, mais qui est une promesse. Cela, cette articulation entre le passé, le présent et l'avenir, de ce qu'on appelle les extases du passé et de l'avenir dans le présent, signifie deux choses qui semblent à tort être contradictoires. Premièrement, l'avenir est nécessaire à la compréhension du présent. Mais la réciproque est vraie aussi. Le présent est le lieu de l'intelligence de l'avenir. Je développe. Premièrement, donc, pour pouvoir se décider librement et spirituellement dans le présent, l'homme a besoin de pouvoir regarder en avant, de pouvoir se projeter et de considérer un achèvement définitif. Ce regard a pour but de rendre possible une décision maintenant. Ravel est un jésuite. Hein. Donc vraiment, il faut que je puisse me décider maintenant, puisque c'est dans ce présent que les choses s'articulent et se jouent. Le présent, donc, est le fruit, ce qui se fait maintenant, est le fruit de ce regard vers l'avenir, qui lui permet donc de comprendre la parole de Dieu, et en comprenant la parole de Dieu, de saisir la vérité de son existence. Donc, c'est deux choses en même temps. La parole de Dieu me permet de me comprendre parce qu'il y a ce regard vers le futur. La deuxième chose, la connaissance de cet avenir qui est encore absent ne peut être déchiffrée qu'à partir de l'expérience historique du salut vécu dans le présent. C'est à partir de maintenant que je peux faire une projection et me dire, oui, il va y avoir cela. Donc il y a vraiment un jeu qui se fait. Autrement dit, l'avenir, c'est l'achèvement définitif du présent. C'est-à-dire le déploiement de ce qui est déjà caché ici. Conclusion, enfin une des conclusions, c'est que l'eschatologie n'est pas un reportage anticipé d'événements qui doivent se produire plus tard. Donc quand on lit les récits apocalyptiques en Matthieu, quand on lit en Marc 13 et en Luc 21, il faut faire attention. Dans l'Apocalypse, il ne faut pas lire un récit d'événements qui doit absolument arriver. Vous voyez la force de ce qu'il vient de dire et l'ancrage qu'il donne. Mais c'est le regard en avant nécessaire à l'homme pour sa décision spirituelle de foi et de liberté. Décision qui est dirigée justement vers l'achèvement définitif de ma propre situation d'existence déjà eschatologique. Donc déjà le mystère est présent et donc c'est ce qui me pousse et qui me permet de m'accomplir plus loin. De plus, autre conséquence, si l'avenir est un achèvement du présent, il faut du coup que tous les aspects de l'homme actuel, tous ceux qui me concernent maintenant dans toutes mes dimensions, que tout cela soit accompli. Dans justement l'idée ou l'anticipation du futur. Donc c'est vraiment l'homme dans l'intégralité de ses aspects essentiels. Sinon, ce n'est pas un véritable achèvement. Donc, en matière eschatologique, on ne peut dissocier, et là c'est très important, l'avenir du présent. Sinon, on risque de ne plus comprendre à la fois l'avenir et le présent. Alors, Rainer a dit, oui, mais qu'est-ce que c'est que ce présent dont je parle tout le temps? Il le précise, c'est l'expérience de foi en Christ, c'est-à-dire le salut déjà donné en Jésus, ou l'expérience de l'agir salutaire de Dieu envers nous-mêmes dans le Christ. Or, ce présent que nous vivons, lui, ne reçoit son intelligence que d'un passé. Et ce passé, c'est Jésus, mort et ressuscité. Donc, on peut dire que l'avenir se reçoit de notre présent, c'est-à-dire de notre vie chrétienne, qui elle-même ne peut être saisie sans le passé, sans le Christ. Parce que justement, la manifestation de la vérité de notre existence est le fruit de la parole de Dieu que nous sommes. Donc la manifestation de la vérité de notre existence, le futur, et le fruit de la parole de Dieu qui a été donnée. Donc on peut dire que l'existence chrétienne, aujourd'hui, qui vient de cette parole, est déjà la communication de l'avenir. cette communication de l'avenir, donc, on voit bien qu'elle ne s'additionne pas au présent. C'est pas un truc en plus. C'est le déploiement de ce présent. Et donc, là aussi, on voit bien des choses, une chose très importante pour bien comprendre l'eschatologie. Ce n'est pas d'abord la communication de propositions qui sont vraies. Ce n'est pas d'abord des choses dites objectives, si on veut, qui sont extérieures à moi. La connaissance des eschata n'est pas une communication supplémentaire s'ajoutant à l'anthropologie et à la christologie dogmatique, mais n'est rien d'autre que leur transposition dans le mode de l'achèvement. Donc, vous voyez, la christologie, le Christ, l'anthropologie maintenant, et les fins dernières. Donc, la connaissance de l'avenir, je redis la même chose, hein, mais j'essaie de le délayer, de l'avenir est donnée dans la connaissance de la présence actuelle du salut dans le Christ. Et je cite de nouveau René qui redit la même chose autrement. L'anthropologie et l'eschatologie chrétienne sont finalement la christologie dans l'unité des phases différentes du commencement, du présent et de la fin. On a comme ça les étapes de l'histoire qui se donnent. Le Christ, la christologie se vérifie maintenant dans mon existence et c'est elle qui se déploie dans l'avenir. Donc, une juste compréhension de l'unité de ce lien, permet d'éviter à la fois la démythologisation de l'avenir et son extranéité au présent, le fait qu'elle soit complètement extérieure au présent. Mais on voit bien le lien. D'où un principe, il n'y a aucune affirmation eschatologique qu'on ne puisse ramener à celle qui concerne cette existence chrétienne telle qu'elle est. Dès qu'on sort de là, on va se tromper. Rainer dégage encore d'autres principes de cela, donc il creuse chaque fois. Puisque on est dans le mode de l'achèvement, il n'y a qu'une seule prédestination de l'homme, c'est celle au salut. On n'est pas prédestiné à l'enfer, à la perdition. Parce que justement, la perdition, ce n'est pas l'achèvement de l'homme. Dans le même sens, on ne peut pas accepter ni l'apocatastase, souvenez-vous, ça veut dire qu'il y aurait dans l'avenir encore un changement et que tout le monde serait sauvé malgré la décision du présent. Et on ne peut pas non plus être certain absolument du salut de quelqu'un avant sa mort, puisque les choses se jouent dans l'existence chrétienne. Si on peut affirmer l'existence, le salut d'une personne décédée en raison de l'efficacité de la grâce, on ne peut pas l'affirmer de la damnation, selon lui, car justement, l'action de Dieu dans les cœurs possède toujours un aspect caché. Deuxième principe, l'achèvement est la transposition des affirmations anthropologiques chrétiennes. Et parce que ces affirmations anthropologiques chrétiennes concernent tout l'homme, c'est-à-dire son corps et son âme, eh bien il faut que l'avenir soit pensé en fonction de cela. Donc il faut penser un achèvement spirituel et corporel sans réduire l'un à l'autre, ni les opposer. Donc, on ne peut séparer ni confondre l'eschatologie personnelle, donc aussitôt après la mort, et l'eschatologie collective, corporelle. Troisième principe qu'il déploie encore, l'eschatologie est à la fois actuelle, c'est-à-dire une attente proche, est marqué par l'incertitude de l'absence, donc encore lointaine. Donc on ne peut pas opposer les deux attentes, une proche et une lointaine. De nouveau, les deux mêmes erreurs sont à rejeter. le refus de l'actualité du salut et sa réduction au seul présent. Parce que si on fait cela, on ne voit plus en quoi le futur concerne le présent, et dans l'autre sens, on ne voit plus comment le futur ne serait pas un mythe. Quatrième principe, là vous l'avez deviné, j'imagine, le Christ, Jésus lui-même, est le principe herméneutique de toutes les affirmations anthropologiques. Vous avez dit que c'était anthropologique. Mais là, il dit c'est le Christ, donc il approfondit la chose. L'eschatologie se voit dans le Christ. Cinquième principe, toute la dogmatique catholique des fins dernières peut être tirée de cette expérience que nous avons du Christ. Elle en découle. Alors, on va encore distinguer entre le contenu et le mode d'expression des affirmations eschatologiques. Comment est-ce qu'on fait un partage là-dedans? Eh bien, ce qu'il vient de dire constitue une clé de discernement. Si tout est ramené au Christ et à l'anthropologie, l'expérience chrétienne, eh bien, je peux voir comment les choses se transposent. En disant qu'on doit distinguer entre le mode et son contenu, hein, entre la manière, entre savoir ce qu'il faut prendre au sens propre pour finir au sens figuré, il faut faire attention quand même à ne pas faire une séparation entre la chose, la réalité et l'image. Pourquoi? Parce que, dit Rainer, en fait, je ne peux pas penser sans image. Toute notion dérive d'image. Et si je supprime les images bibliques, par exemple, ben nécessairement, je vais en mettre d'autres à la place. Il y a toujours une représentation qui nous habite. Qu'est-ce qui permet du coup de faire du discernement? C'est le rapport entre les images. Et quand on comprend cela, eh bien on se dit, tiens, c'est intéressant parce que le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament s'avère ici essentiel. Et je ne peux pas ne garder que le Nouveau ou que l'Ancien. Parce que ce qui est déterminant, c'est justement le jeu qui passe de l'un à l'autre. Puisque on est dans l'achèvement. Et donc toute théologie est nécessairement à la reprise de ce jeu, mais exprimée de manière différente, avec des images nouvelles, qui parlent plus à l'aujourd'hui. Alors une fois qu'il a bien expliqué qu'on ne peut pas séparer la chose de l'image qu'il exprime, il dit, mais voilà, mais on peut quand même faire une distinction. Quand on ne sait pas comment faire, Rainer opte pour une interprétation restrictive, donc la plus limitante. Alors on est toujours dans le bon. Sauf, dit-il, si ce que je dis contredit la christologie ou l'anthropologie théologique. C'est-à-dire ce qu'est le Christ, ou ce que nous vivons nous. Donc on peut vérifier les choses. Alors ce qui est intéressant pour nous, quand on lit Rainer, c'est que en fait, ça correspond avec ce que j'ai essayé d'expliquer au tout début du cours sur les quatre sens de l'écriture. Vous vous souvenez, avec ces mots barbares, hein, le sens littéral, allégorique, tropologique et anagogique. Rainer, avec son propre regard, a dit cela. Quand je reprends au tableau, vous avez la lettre, le sens allégorique, le sens tropologique et le sens anagogique. Voilà l'histoire, et ici on a le Christ. Le Christ accomplit la lettre. Ce qui est vécu dans le Christ, je l'intériorise dans ma vie. Ça, c'est l'expérience chrétienne dont parle Rainer. Et donc, l'anagogie, l'eschatologie,
ne peut être que cela, c'est-à-dire la projection, si vous voulez, de cet accomplissement-là. Et dès que je perds ces deux références-là, Dhyana, je vais dans le décor. Donc très intéressant pour savoir comment je vais interpréter les choses. Un exemple très simple, c'est le feu corporel. On a vu comment les niveaux se battaient pour essayer de comprendre ce feu corporel. Mais dans quelle mesure parler de feu correspond à l'expérience du Christ, à ce que le Christ a vécu? Donc on peut réfléchir, et là c'est mais oui, tiens. Alors les médiévaux ont repris, surtout à travers Julien de Tolède, qui parlait lui-même de feu corporel de manière au sens propre. Donc ils ont été extrêmement prudents, ils n'ont pas osé partir. Ils ont essayé d'abord de justifier la proposition. Et nous on peut voir, tiens, peut-être qu'il faut penser autrement. Et on l'a vu avec Thérèse de Lisieux. Pour Thérèse de Lisieux, il n'y a pas de feu. Le feu, c'est l'amour de Dieu. C'est lui qui me purifie. Vous voyez, changement. Je passe à Balthazar. Alors, Balthazar a écrit un article aussi sur l'eschatologie. Pour lui, le traité de théologie qui est l'eschatologie est le traité par lequel arrivent ces orages, dit-il, qui menacent et fécondent toute la terre de la théologie. J'aime bien les deux mots, qui menacent et fécondent. Et donc c'est le lieu aussi où apparaissent les marques ou les manques de la théologie. Et Balthazar en donne deux exemples. On le constate dans la théologie libérale, qui se veut scientifique, Bultmann par exemple, chez Karl Barth, qui voulait tout axer sur l'eschatologie. Et donc la théologie libérale, Karl Barth et Bultmann, avec la démitisation. Comme Rainer, Hans Urs Balthasar est aussi profondément conscient de la rupture culturelle de notre époque. Et donc, pour lui, il faut faire comme Origène, en son temps, c'est-à-dire confronter le donné révélé avec la culture dans laquelle le chrétien baigne. Et donc, il faut intégrer la vérité chrétienne dans le cadre de la pensée moderne. Mais pour Balthasar, la différence de Rainer, le gap, il est davantage cosmologique qu'anthropologique. Je développe. Notre monde est façonné par la science. Et donc, notre image, notre perception du monde, de l'univers, sont très différentes de celles de Bonaventure, saint Thomas d'Aquin, des pères de l'Église et du monde de la Bible. Très, très différentes. Et la différence est si forte que lorsqu'on entend certaines affirmations eschatologiques, elles me semblent dénuées de fondement. Par exemple, quand on parle du ciel, du purgatoire, de l'enfer comme des lieux, enfin, on ne dit pas que c'est des lieux, mais dès qu'on le dit, on entend lieu, nous, qui sont un lieu où résident les âmes, et puis on voit certains théologiens autrefois, qui ont essayé de localiser cela. Où est-ce que ça se trouve? Alors, ça doit se trouver entre la terre et je ne sais pas quoi. Faut essayer. Et donc, il y a toute une discussion qui se fait là. Mais pour nous, ça le tombe des mains. Quoi. Enfin, comment est-ce possible? Ou quand on parle de la fin du monde, que ce serait un événement d'abord théologique. Mais pour nous, la fin du monde, c'est d'abord un événement physique. C'est une supernova. On voyait ça encore à la télévision il n'y a pas longtemps. Donc, ce choc de conception cosmologique fait que ce qui est affirmé dans l'Écriture nous apparaît indigne de la raison. Alors, pour Balthasar, la conséquence de cette différence de perception est double. D'une part, eh bien, l'eschatologie s'est vu arracher les figures qui avaient fécondé sa pensée au point que tout d'un coup, il n'y a plus d'image. Mais c'est quand même difficile de penser sans image. Alors ça, Balthazar dit pas, c'est une réflexion que je me suis, une question que je me suis posée. Est-ce que la difficulté de parler aujourd'hui des fins dernières, de, que ce soit commun, ne résulte pas de cela, entre autres? Les figures nous ont été enlevées, donc on ne sait plus comment le dire. Et dès qu'on utilise l'image, on voit très bien l'incompréhension que ça peut engendrer, et du coup on dit, bon, je préfère ne pas en parler. D'autre part, toute la théologie est devenue eschatologique. En fait, les fins dernières sont ramenées à l'actualité de l'action de Dieu dans le monde, dans l'homme, dans l'histoire. Elles sont réduites, si vous voulez, à l'action de Dieu dans le présent. Mais ce faisant, comme l'affirme Balthazar, ce n'est plus les fins dernières qu'on va intégrer dans un cosmos. Alors, on va essayer de localiser les choses. Hein? C'est le cosmos qu'on va rattacher à l'action divine. Donc, les fins dernières, c'est plutôt l'ascension du cosmos en Dieu. Et donc, en ce sens, avec Balthazar, on peut lire, vous avez la citation, « C'est Dieu qui est la fin dernière de sa créature. Il est donc le ciel pour qui le gagne, l'enfer pour qui le perd, le jugement pour qui il examine, le purgatoire pour qui il purifie. Il est celui pour qui meurt toute mortelle et par qui il ressuscite pour lui en lui. Si c'était assumé en Dieu, en fait, l'action salvifique de Dieu sur la créature, c'est une nouvelle détermination de la créature. Et donc, pour nous aujourd'hui, ce qui vient, du coup, est neuf et autre. Donc, la nouvelle perception du cosmos impose une transposition de la pensée théologique des fins dernières. Le danger, le prix à payer de cette manière, c'est d'évacuer justement la dimension cosmologique. Mais la grâce, c'est de tout rapporter à Dieu. De cette manière, on peut dire que lui seul est notre lieu après notre vie ici. C'est lui le lieu. Et ça consonne avec, ça correspond avec ce qu'on a entendu de Jésus au Bonaron. Tu seras avec moi aujourd'hui. En même temps, si Dieu est la fin dernière, eh bien, il est précisément à la façon dont il est tourné vers le monde, c'est-à-dire en son Fils Jésus-Christ. Parce que Jésus est le visage de Dieu révélé, et donc il est la personnification des fins dernières. Et donc, comme Rahner, Balthazar dit qu'il faut apprendre à interpréter les fins dernières en termes christologiques, et il ajoute, lui, en termes trinitaires. Et c'est vrai pour tout, pour le jugement, le purgatoire, l'enfer, le Sheol. Alors, cette structure christologique de l'eschatologie a des conséquences. Primo, on ne peut construire l'eschatologie aujourd'hui qu'en tenant compte de la structure globale de la théologie. Et au-delà de notre sens actuel de l'homme et de l'univers. Premier point. Donc, il s'agit à la fois de faire une critique des théologies traditionnelles, mais aussi d'être capable d'en tirer ce qu'il y a de bon et du coup des aspects neufs et valables. Donc pas démythiser, mais interpréter la parole de Dieu telle qu'elle est, avec le corps qu'elle a pris, le corps théologique qu'on s'entend ici. Secondo, il faut voir la correspondance entre l'eschatologie et les autres traités théologiques. Donc la protologie, ce qui commence le commencement, l'histoire du salut, l'Église, les sacrements, et une interaction des choses. Tertio, il y a aussi un rapport à la philosophie. La philosophie voit aussi les choses de cette manière, donc il faut pouvoir articuler eschatologie théologique et philosophique. Alors, comme Rana, vous voyez que Balthazar ramène les choses au Christ. Alors, Rana, c'était plutôt l'expérience chrétienne qui est fondée dans le Christ. Balthazar amène plus directement au Christ les choses, mais il conçoit cette réduction au Christ différemment de Rahner. Et là, il y a un thème majeur chez Balthazar, c'est la descente aux enfers. Pour Balthazar, c'est à partir de là qu'il faut penser les fins dernières. Et tout se comprend à partir de là. Qu'est-ce qui se passe dans la descente aux enfers? En fait, les ténèbres sont révélées, le purgatoire est aussi révélé, et le bien du salut est révélé. La lumière montre les ténèbres par ricochet, si on veut. Avant la descente du Christ aux enfers, eh bien, le Sheol était indifférencié. Mais lorsqu'il descend, il rencontre les défunts et il opère un double acte, un acte unique qui a deux valeurs. Il les juge et il les sauve. Pour Balthazar, cette confrontation avec le Christ, qui est à la fois juge et sauveur, est le feu purificateur. D'où une compréhension très particulière du purgatoire. C'est la confrontation au Christ. Et puisque tout dépend de cela, de ce jugement, mais Balthazar ne va pas penser deux jours de jugement, un particulier et un général, mais un seul acte de jugement. Et si il est dédoublé, le second, celui qui vient après, doit nécessairement se réaliser en fonction du premier. On ne peut pas les séparer. Et là, il dit quelque chose de très juste. On ne peut pas avoir blanc et puis noir. Ça ne marche pas. Alors, quelques conséquences de cela. Je retrouve mon premier. Le jugement nous échappe. C'est le Christ qui juge. Je ne suis pas à la place du Christ. Donc cela m'échappe profondément. L'issue du jugement nous demeure inconnue. Deuxièmement, comme Rana, il ne faut pas parler d'une double prédestination. Le Christ est le Sauveur. Troisièmement, puisqu'il s'agit d'un acte, la foi ne peut être neutre. Elle inclut nécessairement l'amour, l'espérance et la confiance. Et de là, Balthazar peut faire dériver une espérance de salut pour tous. Pas seulement pour quelques-uns qui sont sauvés, mais vraiment pour tous. Il a écrit énormément sur ce sujet. Quatrièmement, tout ce qu'on a dit ne peut pas vider de sa substance l'écriture de sa substance, en tout cas d'une partie de sa substance. Il faut vraiment laisser la possibilité d'une double issue à ce jugement, même si la pensée de l'enfer est intolérable. C'est une caractéristique aujourd'hui, hein, c'est que cette pensée nous est intolérable. Et donc, Balthazar dit, mais oui, mais c'est une grande question, comment est-ce que je fais pour réconcilier le jugement et l'espérance pour tous. Il dit, mais c'est une ligne de crête extrêmement difficile à tenir. C'est une ligne de crête, donc il faut la tenir. Et Balthazar, pour essayer de la tenir, eh bien, suit Charles Péguy. Et il dit ceci, révolté à l'idée de l'enfer, le poète se réconcilie avec cette pensée. Une fois qu'il a perçu combien la perdition de l'homme révolte Dieu lui-même. C'est insupportable à Dieu que quelqu'un se perde, plus qu'à nous. Et donc il se dit, mais si ma révolte est là, et que Dieu est encore plus révolté que moi, ou veut l'éviter encore plus que moi, combien je peux faire confiance à Dieu? Voilà pour Balthazar. Je passe à Ratzinger. Alors, Ratzinger n'a pas directement écrit d'article sur l'herméneutique des fins dernières. Il a écrit un livre qui est fameux, qui a été traduit en de très nombreuses langues, paru pour la première fois en 1977. Et au début de ce livre, il esquisse brièvement quelques courants de pensée qui lui semblent constituer autant de défis pour l'eschatologie. En fait, nous avons déjà vu le premier, c'est la théologie libérale, qui, sous le couvert de la pensée scientifique, affirme que tout message de Jésus est eschatologique. Et donc, que l'eschatologie se réduirait, je cite, dans l'intensité de cette attente, et c'est là qu'il faudra chercher ce qu'il y a d'explosif, de neuf, de grand en Jésus. Et là seulement serait le sens capital de toutes ces paroles. Là seulement. Et donc, c'est une réduction de l'eschatologie à l'existentialisme. Donc, même s'il ne cite pas à cet endroit, évidemment, on pense à Bultmann, on peut penser aussi à Karl Barth, qui n'est pas très loin. Un autre courant important pour Ratzinger, c'est le marxisme. Que fait cette pensée? Eh bien, elle entend donner au message eschatologique un contenu perceptible et réaliste, mais réaliste à l'aune de la science. Et donc, l'eschatologie ici est réduite au scientifiquement pensable et à la matière. Alors, dans deux autres livres, Lumière du monde et Dogme et annonce, il y a quelques passages où on voit que Ratzinger va réfléchir au statut de l'image. Et dans Lumière du monde, il dit il s'agit d'avoir un réalisme eschatologique. Qu'est-ce que c'est que cela? Il dit c'est que ces choses ne sont pas des mirages ou je ne sais quelle utopie inventée, mais qu'elles rendent compte avec exactitude de la réalité. Nous devons effectivement toujours nous rappeler que Jésus nous a dit avec la plus grande certitude, je reviendrai. Ces mots-là sont au-dessus de tout. Donc pour Ratzinger, le gap culturel n'implique pas qu'il faille démythiser l'écriture. Mais au contraire, il faut essayer de faire briller la parole de Dieu du fond de soi-même et ainsi confronter sa force positive aux négations de l'esprit humain et les démasquer en tant que négation. Alors Ratzinger essaie de faire cela à propos de la résurrection et il va discuter justement de la place de l'image dans la réflexion théologique et donc particulièrement eschatologique et il va prendre Apocalypse 21. Pour lui, l'écriture est vraisemblablement très conscient de l'impossibilité de représenter les réalités eschatologiques de manière directe et à la hauteur de l'enjeu. Elle sait, pourrait-on dire, que la connaissance humaine se développe dans le cadre de ce monde. Et elle n'ignore pas qu'elle ne peut exprimer ce qui n'est pas de ce monde qu'avec des matériaux de ce monde. C'est-à-dire, vous avez les citations, qu'à travers des approximations et les ressemblances qui existent à l'intérieur de ce monde, c'est-à-dire par des comparaisons des images, par analogie. Pas d'autre moyen pour nous que de penser à partir de là. Ainsi, on ne peut vraiment parler de Dieu que par analogie, et le nouveau monde de la résurrection, qui ne sera justement plus ce monde, ne peut être exprimé que par le biais d'images tiré justement de ce monde. Elles ne peuvent donc pas reproduire dans son essence cette réalité autre qui va advenir. Et Ratzinger en tire une conséquence. C'est bien la raison pour laquelle ces images ne doivent pas être nécessairement déterminées avec exactitude. Elles ne doivent pas non plus être logiques jusqu'à la dernière conséquence, dans ce qu'elles ont souvent de flou, de transitoire, qui souvent leurs caractéristiques, se manifeste l'idée qu'elles sont en elles-mêmes inappropriées et provisoires. Et on voit bien dans Apocalypse 21, il y a plusieurs images qui sont ensemble. Et on voit bien que on n'arrive pas à en faire une règle logique. Donc elles disent par elles-mêmes, par le fait qu'elles sont ensemble, qu'il y a quelque chose de trop court. Et qu'il ne faut pas s'y arrêter de manière fondamentaliste. Tout en disant cela, Ratzinger affirme ceci, les images laissent transparaître l'indicible qui est le but de l'espérance chrétienne. À travers de telles images s'annonce et se manifeste le salut d'une telle grandeur, d'une telle envergure, qui va bien au-delà des simples espérances d'immortalité des philosophes. Il y a quelque chose qui se dit à travers les images. Ce n'est pas comme si tout était à côté. Il y a quelque chose de juste et de vrai qui se transmet. En fait, grâce aux images, la réalité eschatologique acquiert quelque chose d'immédiat pour nous, de touchant et de facilement compréhensible. Il y a aussi une certaine vitalité qui est là, une certaine profondeur, parce qu'elle parle au sens. Et les images du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse en sont un exemple. Elles concernent la résurrection, et elles font comprendre aux images de la ville, du repas, etc., que le salut de l'homme est intégral en un double sens. Il concerne l'homme tout entier et le monde dans son entièreté, c'est-à-dire qu'il touche l'homme corps et âme, l'homme comme être social et l'homme comme solitaire avec tout ce qui est créé. Ainsi pour le Seigneur, il serait peut-être mieux de laisser cette promesse telle qu'elle, sous la forme d'une image, comme elle se présente à nous dans l'Écriture, et ne pas vouloir passer outre. Même si ces images ne pourront jamais être élevées au rang de notion, et donc revêtir l'univocité abstraite d'une affirmation pure, justement, et sans image. Donc gardez l'image. S'il faut garder l'image, ça ne veut pas dire que l'intelligence est superflue, que la réflexion conceptuelle se devrait mettre de côté. Non, justement, on a besoin de notre intellect pour gagner en clarté. Donc l'effort ici de l'intelligence est légitime, il est même nécessaire, pour autant que cet effort-là ne soit pas un refus de l'image et son assomption. Et qu'on assume l'image et qu'on garde l'image dans toute sa richesse et qu'on tire de l'image ce qu'elle donne. Mais tout ce que j'ai tiré de l'image n'est pas seulement tout ce que l'image dit. Vous voyez ? Et je ne dois pas non plus dans l'image nécessairement vouloir appliquer tout parfaitement dans le même sens. En faisant cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on parvient à s'approprier, dire à Seigneur de manière limpide, ce que son cœur, au fond, a déjà saisi depuis longtemps. Mais l'effort de l'intelligence, la réflexion conceptuelle, est justement pour nous une manière de nous approprier, de faire nôtre la chose. Et de cette manière, eh bien, on accède à ce que Dieu veut nous révéler. Voilà trois pensées, vous voyez, qui sur certains points se complètent, mais qui ne se recoupent pas exactement. Je vous remercie.